Le Yiddish aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.
Bonjour, Shalom Aleichem. Alors aujourd'hui, j'ai un invité. Il s'agit de Ulrich Lampen, qui est journaliste et aussi qui produit des émissions de radio sur la radio allemande. Voilà, donc merci Ulrich d'être venu.
Merci pour l'invitation.
Voilà, est-ce que tu peux un petit peu expliquer pourquoi tu as été amené à adapter pour la radio des textes écrits en français, en particulier de littérature juive?
Bon, c'est une petite histoire. Ma femme a lu le bouquin, Fait à prière, Shimon Levy. Il m'a le passé pour... il m'a dit, mais écoute, c'est une histoire strasbourgeoise avec beaucoup de petites histoires dans la coin. Et on se vivait à peu près un an entier de vie juive à Strasbourg. Et parce que je suis metteur en scène pour la radio allemande, pour des stations différentes, j'ai proposé ces textes à Madame Hein, la rédactrice de SWR à Baden-Baden, très proche de Strasbourg, qui est très intéressée à des histoires des langues régionales qui sont liées de la région où nous sommes et où notre écouteurs sont. À cause de ça, bon, elle ne lit pas le français, j'ai fait une petite synopsis, j'ai raconté, il y a le alsacien dedans, il y a le yiddish dedans, et cette histoire d'un an, avec tous les jours de fête.
Voilà, donc c'est un intérêt pour la culture juive, pour les coutumes, pour les... Je crois que tu as adapté aussi d'autres romans venant de Strasbourg, d'ailleurs, en particulier de Barbara Honigmann, qui raconte aussi quelque chose sur la communauté de Strasbourg.
Oui, mais le texte que j'ai travaillé avec Barbara, c'était un grand projet, das Projekt die Bibel, pour le Hessischer Rundfunk, pour les stations en Francfort, et là elle a fait une émission sur Esther. C'est lié à cette histoire de Esther, mais pas tout à fait à la communauté juive strasbourgeoise. Et la deuxième chose avec Barbara que je fais, c'était sur Mike Brandt, qui est pas tout à fait lié à la communauté strasbourgeoise, mais qui est, je crois, tout le monde le connaît.
Oui, voilà, Mike Brandt, oui, le grand chanteur très, très connu, qui a fait une carrière tout à fait importante en France, malheureusement très courte, puisqu'il s'est suicidé très jeune. Mais c'est vrai que c'est un personnage très, très important en France. Voilà, alors peut-être tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais en général à la radio, comment ça se passe et comment tu es amené à faire des adaptations de romans.
Comme j'ai dit déjà, je suis metteur en scène, j'ai appris ce travail, ça fait déjà presque 30 ans que je suis dans le métier. Je travaille pour presque toutes les stations en Allemagne. Grâce à la structure fédérale, ils ont plusieurs, qui a un département de radio-théâtre, radio-drame. Et là, on a un grand rayon de projets, soit le noir, soit les crimes, soit la littérature, soit expérimental, soit une liaison entre la musique et les paroles. J'ai fait des grandes adaptations pour le Bayerischer Rundfunk. J'ai fait une adaptation de La Montagne Magique de Thomas Mann. C'est une émission de 10 heures. Et oui, c'était énorme. Mais aussi le petit truc de 20 minutes, 23 minutes. Qu'est-ce qu'il arrive? Alors là, c'est surtout le son qui m'intéresse et la possibilité de raconter une histoire acoustique, sonographique.
Oui, alors il faut dire qu'en Allemagne, il y a beaucoup d'émissions de pièces radiophoniques, Hein, donc, c'est des adaptations, alors soit des pièces qui sont jouées, peut-être, des pièces écrites pour le théâtre, jouées à la radio, enfin jouées, disons, oui, jouées juste avec le son, évidemment, puisque c'est la radio. Est-ce que c'est aussi des vraies pièces de théâtre, si je puis dire, qui ont été écrites pour le théâtre ?
Ça a commencé à l'époque, le radiothéâtre, ou le Hörspiel, qu'on dit en allemand, ça date plus de 60 ans d'ici, et le premier truc à commencer, qu'est-ce qu'on va faire ? La lumière éteint. Ça, c'était la première phrase de la fameuse première pièce de la BBC en anglais, parce que personne ne peut s'imaginer comment est-ce qu'on peut raconter une histoire jusque par les paroles et dans la lumière, quoi.
Oui, sans avoir ouais, devant soi des acteurs. Ouais, voilà,
mais c'est vraiment développer un propre genre de littérature. Beaucoup de textes sont des textes originaux que les auteurs écrivent directement pour le radiothéâtre. Oui. Et beaucoup des acteurs très connus à commencer pour le théâtre ou faire l'épreuve, le test de quelques pièces, de quelques chapitres de leur grand roman. Elle fait le test, est-ce que ça fonctionne ? Et pour le test, ils laissent les jouer dans les radiothéâtres, dans les radios. Par exemple, quand j'étais dans mon éducation, j'ai eu la chance de voir le classeur avec l'électorat à Baden-Baden pour les SWF à l'époque. Et là, je trouve un feuille où le lecteur dit « Bon, d'accord, cette pièce ne marche pas du tout, il n'y a que des fautes, mais fais gaffe, cet auteur, ils savent écrire. » Et l'auteur, c'était Heinrich Böll.
Ah oui, d'accord. Donc Heinrich Böll a commencé, en tout cas, on a commencé à jouer ses romans en Hörspiel,
c'est ça ? Ou les scènes.
Quelques scènes de ses romans.
Quelques scènes ou directement une pièce pour le radiothéâtre. Oui. Par exemple, beaucoup de gens ne le savaient pas, j'ai fait une pièce, Radau Kasperl, de Walter Benjamin, qui a écrit une pièce directement pour les enfants.
D'accord.
À Berlin, pour gagner du fric, bien sûr, mais aussi avec une grande admiration du radio.
De la radio, oui, c'est ça, parce que la radio a été vraiment, un média, voilà, très très important, d'ailleurs qu'il est resté malgré la télévision, hein. On a dit à un moment la télévision va faire disparaître la radio, mais pas du tout. Alors c'est vrai qu'en France, il y a autre chose, c'est-à-dire qu'en France, on a fait beaucoup de lectures de textes, de romans, mais en les laissant en romans, hein. C'est ce qu'ils ont fait, en particulier, ça s'est peut-être fait il y a longtemps, ça, je ne sais pas, mais maintenant, ça s'est fait en particulier pendant la pandémie, hein, pendant le corona, puisque les acteurs de théâtre ne pouvaient pas jouer sur scène, donc ils ont enregistré des romans en particulier. Je sais que La recherche du temps perdu de Proust a été lu intégralement par les comédiens de la Comédie française, ça a pris des semaines et des semaines. Voilà, mais par contre, alors il y a eu à un moment aussi des pièces radiophoniques, je crois que Pierre Dac en faisait, mais que j'ai l'impression, il semble que ça se fait encore un petit peu sur France Culture, mais en Allemagne c'est beaucoup plus développé.
Et il y a aussi Arte Radio.
Arte Radio qui fait ça,
qui fait plutôt les pièces radiophoniques, mais vraiment les productions originales pour les radios, sur la base de prises de son, field recording, de textes, beaucoup de choses. Mais là, c'est très très fort.
Oui, donc là, il faut alors des acteurs différents, bien sûr, introduire par des musiques, par des sons, c'est ça qui t'intéresse pour donner de la, comment dire, de la réalité.
C'est le plan des acteurs. Je travaille beaucoup avec les acteurs qui font aussi le théâtre et qui font aussi le film, les deux, pour avoir déjà l'expérience de changer la manière de jouer. Qui s'oriente pour le média dans lequel nous sommes. Et je le dis souvent, le micro, ça c'est un microscope dans la tête des acteurs et j'arrive à écouter qu'est-ce qu'ils pensent derrière, qu'est-ce qu'ils disent. Alors il y a cette, toujours comme dans toutes les façons qu'on en joue, il y a toujours ce double sens de faire l'un et faire l'autre en même temps pour donner des situations un peu des glissements de sens. Les vieux situations, quelqu'un dit je t'aime et à l'arrière il pense mais comment est-ce que je peux sortir de cette situation-là et des choses comme ça.
Et, oui,
et pour faire ça, il a besoin de vrais acteurs.
De vrais acteurs, oui, oui. Alors, je sais que pour l'adaptation de mon roman, hein, Fais ta prière, Simone Lévy, tu as donc pris des acteurs en particulier de la choucrouterie, hein, des acteurs alsaciens, puisque il y a un des personnages qui est alsacien, donc il parlait l'allemand, je crois, avec un accent alsacien, c'est
oui,
ça.
Oui, mais là, dans ton roman, on a eu une autre difficulté, parce que on a la communauté Strasbourgeoise, mais un tiers de roman joue en Israël.
Oui, c'est juste.
Et là, pour avoir cette différence, on a pris la décision. Ce que Israël, ça sera en Hochdeutsch,
ah,
et
voilà.
Strasbourg restait dans, pas vraiment l'alsacien, mais avec une couleur régionale. À cause de ça, pour avoir les différences entre les différents lieux. Et on a introduit aussi le yiddish.
Oui.
Oui, et l'alsacien. Alors on a deux langues, trois langues et deux couleurs.
Oui, c'est ça. Et alors, tu as aussi choisi une nouvelle de Sholom Aleichem qu'on entend comme ça en yiddish. Je dois dire que tu as très bien choisi parce que c'est une des meilleures nouvelles de Sholom Aleichem. C'est une histoire d'amour, en fait, une espèce de... Oui, un malentendu, un quiproquo autour d'une histoire d'amour. Comment tu es tombée sur cette histoire?
Oui, je suis juste suivi la trace que tu as donnée dans le roman. Cet auteur était important pour la personne qui travaille dans le radio, dans la station dans laquelle nous sommes pour l'instant, qui est là... Parce que je veux avoir un peu plus de yiddish dans l'émission pour avoir cette sensation acoustique de suivre cette langue. Pour les Allemands, c'est bien. C'est, on comprend et on ne comprend pas.
Oui.
En même temps, c'est entre les deux. On pense avant, c'est juste un dialecte. Non, c'est une propre langue. Ils ont des mots absolument inconnus pour nous. Ils ont des langues très communes avec la nôtre. Et comme ça, c'est très... J'adore. J'adore d'entendre cette langue. On a trouvé une actrice qui vient de Munich, qui a fait une part de sa formation en Israël. À cause de ça, il parle l'hébreu et le yiddish. Et j'ai besoin d'un texte. Et dans ton histoire, c'est aussi une histoire d'amour. C'est pas seulement une histoire noire.
Oui.
Et on a trouvé cette texte-là.
Oui,
ça donne une autre trace, ça donne une trace acoustique, ça donne une trace émotionnelle peut-être dans la pièce.
Oui, oui, oui. Alors, ça m'a vraiment beaucoup amusée parce que je parle beaucoup de Sholom Aleichem évidemment dans mon roman, mais je ne parle pas de cette nouvelle qui est pourtant vraiment une des meilleures nouvelles de Sholom Aleichem et c'est vraiment une nouvelle que j'aime beaucoup. Donc j'étais très 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 contente. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que en Allemagne, on fait peut-être aussi une place beaucoup plus grande au dialecte. Hein. C'est-à-dire que les Allemands n'hésitent pas à faire entendre des textes qui sont pas en Hochdeutsch, justement, qui sont dans des dialectes différents. Et je sais que, par exemple, mon beau-frère, Pierre Kretz, a pu lire en alsacien des textes qu'il avait écrits sur des radios allemandes, ce qui, en France, serait quasiment impossible, mais parce que les Allemands comprennent, et peut-être qu'il y a une plus grande ouverture aussi à des langues, comme tu disais, qui sont à la fois familières et quand même pas la même langue que l'allemand classique.
Oui ou non, je suis pas sûr. Parce que on a, bon, dans l'Allemagne du Nord, on a une propre langue, le Plattdeutsch, pardon, qui est très fort. Dans l'Allemagne du Sud, le Bavarois, eux, ils sont très fiers de leur propre langue.
Oui.
Une grande différence entre le Franken und die Bayern, entre le Niederbayern et Oberbayern, et des choses comme ça. Là, ils sont très respectueux à ça. Et ils ont beaucoup aussi de pièces de littérature, pièces de théâtre, dont la dialecte et dont les langues-là.
C'est ça.
Mais dans l'Allemagne intégrale, ce n'est pas cette position très forte. Mais parce que nous sommes à la frontière, là, il y a toujours... J'ai habité 5 ans directement à la frontière dans un petit village et j'étais... frontière franco-allemand. J'étais assez étonnant que personne dans la ville parle français. Personne.
Ah oui.
Et mais j'ai dit, mais je pensais, bah, c'est pas possible. Moi, je viens de Westphalie, quelques 100 kilomètres. Je dis, pourquoi est-ce que je ne parle pas? Jusqu'au moment que j'ai compris que le dialecte, le Elsassisch et l'Allemannisch, est si proche que ce n'était pas nécessaire d'apprendre le français. Parce que eux, ils ont déjà une langue commune.
Ah oui,
à cause de ça, les régions frontalières sont très intéressantes sur ce plan-là. Mmh. Et j'adore faire des choses, pas la alsacienne pure, mais d'une langue régionale qui a un mélange de tous. Qui peut avoir même le verlan dans l'alsacien et des choses comme ça. Une langue est toujours une langue qui fonctionne. Une langue est toujours une langue vivante. Ça ne vaut pas la peine de faire de pièces radiophoniques en latin.
Non, non.
Pas forcément.
Il y aurait peut-être des
moi.
Gens qui auraient l'idée, mais bon, il y a eu un moment des mouvements de gens qui essayaient de parler latin et qui essayaient de se réunir, mais je crois que c'est vraiment... tout à fait en désuétude, quoi. Alors que toi, tu dis que ces langues régionales, elles sont très vivantes et créatives, et donc c'est important de les faire entendre à la radio et dans des différents médias.
Avec Uta Maria Heim, il y a une rédactrice qui s'intéresse beaucoup de ça et qui ouvre la porte pour des textes et les langues régionales.
D'accord. Et pour le yiddish, est-ce qu'il y a... Donc toi, tu avais introduit donc, le yiddish dans ton adaptation. Est-ce qu'il y a d'autres moments où on fait entendre le yiddish autrement que par les chansons? Je pense que les chansons en yiddish, on les fait entendre pas mal dans la radio allemande.
C'est possible. Là, j'ai aucune information, j'ai aucune idée. Parce que quand je suis déménagé ici à Strasbourg, c'est la première fois que j'ai vu une vie quotidienne, un tägliches jüdisches Leben. Ça, j'ai pas vu en Allemagne, j'ai pas vu pas du tout dans le petit village dans lequel je suis né. Mm-hmm. C'était un village de à peu près 3000 de personnes.
Oui.
Il y avait rien, c'était...
Il n'y a jamais eu de juifs ou bien c'était... Ou alors ils ont disparu
En Westen, en Westphalie, je sais que dans les villes les plus grandes, là, il y avait eu, dans cette ville-là, peut-être, ça, c'est ce qu'on appelle Fiyut, Lévi, les gens qui
passaient.
Qui passaient, oui.
Ah oui, d'accord.
Mais
pas vraiment installés,
une
communauté juive installée,
non,
tu penses
non.
que
ça,
non.
Ça, c'est dans les petites villes, mais pas dans le tout petit village, pas comme ici en Alsace.
Pas comme en Alsace, d'accord. En Allemagne, c'était pas la même chose. Et donc, oui, c'est ça, tu m'as dit que tu étais frappé par la vitalité et par la présence juive à Strasbourg.
Oui.
C'est quelque chose qui te frappe. Quoi.
Oui, j'habite dans les quartiers. C'est peut-être aussi quand j'habite dans un autre quartier, mais j'habite à Neustadt. Et là, on a vraiment la possibilité de voir Purim, de voir Chouka, de voir toutes les choses très normales. Et ça m'a vraiment touché.
Oui, oui. Donc, effectivement... Ulrich habite pas loin de chez moi, et donc pas loin de la place Arnold, qui est vraiment devenue la place du Shtetl, on peut dire, où vous pouvez voir tous les gens se rassembler, et les enfants qui courent, et qui s'amusent sur la place, vraiment la place du village, de la Neustadt. Voilà, donc, alors nous avons, enfin Ulrich a le projet aussi de traduire en allemand, c'est un scoop là, de traduire en allemand « Fais ta prière, Shimon Lévi ». Voilà, donc c'est un projet ambitieux, j'espère que ça va aboutir. Donc c'est vraiment parce que tu as beaucoup aimé ce roman.
On a déjà, avec la réalisation radiophonique, on a déjà fait la première pas, on continue ce chemin-là. Et peut-être un jour, il sera cette bouquin en allemand.
Oui, voilà.
J'espère bien.
Oui, moi aussi, j'espère bien. Et puis, voilà, donc, je crois qu'on va clore cette émission. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose, dire quelque chose?
Juste deux choses. Merci beaucoup pour l'invitation et un grand excuse pour mon mauvais français.
Ah non, non, écoute, tu te débrouilles très bien. En tout cas, comme on dit, comme disent les Américains, ton français est meilleur que mon allemand.
Voilà. Merci beaucoup.
Heureusement qu'on n'a pas fait l'interview en allemand, parce que là, ça aurait été absolument catastrophique. On peut faire des interviews comme ça. J'ai déjà fait avec des gens où moi, je parle en yiddish, et puis on me répond en allemand. Ça peut marcher pas mal, mais enfin, bon, on n'a pas fait l'essai. Ici, on est quand même sur une radio française, et où on parle français. Et donc, voilà, bah écoute, merci beaucoup d'être venu et puis merci à Thomas d'avoir fait cette interview et puis je vous dis donc à la semaine prochaine. Shalom Aleichem.
Le Yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern. Aïe, aïe, aïe.